Ce matin, c'est ce que nous appelons un culte vision. Si vous n'êtes pas habitué de cette église, je vous dois quelques explications sur ce qu'est un culte vision. Ensemble, en église, nous voulons vivre la mission que Dieu nous confie. Cette mission de faire des disciples tels qu'il nous le demande. Et donc, nous réfléchissons à ce qu'est cette mission. Faire des disciples. Faire des disciples qui, à leur tour, feront des disciples. Entrer dans cette démarche à la fois d'aller chercher de nouvelles personnes pour qu'elles découvrent le message de l'Évangile et les bienfaits que le Seigneur a prévus pour nous. Et à la fois aussi de faire grandir dans la foi et en maturité ceux qui veulent suivre le Seigneur. Des disciples qui font des disciples. Voilà le mouvement que nous voulons avoir. Et ce projet se décompose en 5 mouvements, 5 verbes qui sont affichés ici. 5 mouvements: inviter, accueillir, baptiser, enseigner et envoyer. Et donc, ainsi, chaque mois, on va essayer de mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Verbe par verbe, action par action, mouvement par mouvement, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. La dernière fois, nous avons réfléchi au premier mouvement, inviter. Et nous nous sommes souvenus de qui nous devons inviter. Nous devons inviter notre prochain. Alors, à partir de la parabole du bon samaritain, nous nous sommes demandé qui. Qui est notre prochain? Nous avons découvert avec cette parabole que mon prochain, c'est n'importe qui. Mon prochain, c'est celui que Dieu met sur ma route. Ce n'est pas moi qui le choisis, c'est Dieu qui me fait le rencontrer, c'est Dieu qui me le présente. Nous sommes posé la question, inviter où? Savoir qui inviter, c'est bien, mais où est-ce qu'on l'invite? Et la réponse, c'est inviter vers Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a ce qui est nécessaire, et c'est vers lui que nous voulons inviter. C'est lui, vers lui que nous voulons pointer. L'église locale, l'église que nous formons, c'est pratique parce qu'on met en commun nos dons pour présenter de façon claire qui est Jésus-Christ. C'est donc un bon lieu pour inviter vers Jésus-Christ. Ce n'est pas la fin de l'invitation. Le but, ce n'est pas de venir à l'église. Le but, c'est de voir Jésus-Christ, si possible, à travers l'église. Comment inviter? C'est la troisième question que nous nous sommes posées. Et c'est une question que nous avons peut-être moins creusé les aspects pratiques de cette question, parce que derrière, ceux qui vont dans des groupes de maisons ont pu réfléchir pendant tout le long du mois sur comment inviter concrètement. Mais nous avons retenu deux principes que nous avons toujours trouvés dans cette parabole, la parabole du bon samaritain. Deux grands principes. Le premier, c'est être disponible pour les autres. Avoir dans son emploi du temps, de la marge, avoir de la place, être prêt à être dérangé pour recevoir les autres, prêt à se laisser déranger. Et puis, le deuxième principe aussi, c'est de passer à l'action. On n'est pas là seulement pour tendre une invitation, pour dire « viens à l'église », mais inviter, c'est se préoccuper de celui qu'on croit. C'est être prêt à passer du temps avec lui, être prêt à s'occuper des besoins concrets de ceux que nous croisons. Voilà, résumé en 3 minutes ce que nous nous sommes dit le mois dernier. Si vous voulez recreuser tout ça, je vous invite à relire la parabole du bon samaritain dans cette optique d'invitation. Comment est-ce que je peux inviter ceux que je croise? Comment est-ce que je peux avoir la préoccupation de ceux que je croise pour le Seigneur? Mais ce mois-ci, nous voyons le deuxième mouvement, accueillir. Et pour ça, j'aimerais lire un texte qui se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 4. L'évangile de Jean, au chapitre 4, le texte va s'afficher. C'est la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. C'est après avoir choisi ce texte que je me suis rendu compte qu'il y avait un lien avec la parabole du bon samaritain. Jésus nous invite à inviter à avoir des relations avec les samaritains et du coup, il le fait lui-même, Jean chapitre 4, à partir du verset 5. C'est ainsi que Jésus arriva près d'une bourgade de Samarie, nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama : Comment ? Tu es juive et tu me demandes à boire à moi qui suis samaritaine ? Les juifs, en effet, évitaient toute relation avec les samaritains. Jésus lui répondit : Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive.
Mais maître,
répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où l'attires-tu donc ton eau vive ? Tu ne vas pas prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle.
Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là, pour que je n'ai plus soif et que j'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici.
Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici.
Je ne suis pas marié.
Tu as raison de dire je ne suis pas marié. En effet, tu l'as été 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai.
Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète.
Dis-moi qui a raison. Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem.
Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent par l'esprit et en vérité.
La femme lui dit : Je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout.
Je suis le Messie, moi, qui te parle.
Nous arrêtons ici notre lecture. Que se passe-t-il dans ce récit que nous avons lu ? On voit Jésus seul, fatigué, près d'un puits, et une femme qui arrive seule, elle aussi, vers ce puits. Et il parle. C'est cette discussion que nous avons lue il parle, et je ne sais pas quel effet ça vous fait. Moi, chaque fois que je lis ce texte, ça me fait le même effet. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas, ils ne se comprennent pas. Ils ne parlent pas de la même chose. Mais à un moment, Jésus a une parole de vérité. Une parole qui vient déclencher quelque chose chez la femme. Et là, brusquement, elle s'ouvre. Elle questionne. Et il finit par lui dire qu'il est le Messie. Et elle le reconnaît. Elle reconnaît qu'il est le Messie. J'ai arrêté le récit ici, mais derrière, elle va retourne dans son village pour le partager. Et elle semble faire partie de ceux qui, de son village, reviennent vers Jésus pour confesser que Jésus est effectivement sauveur du monde. Ça, à la fin du... du récit au verset 42. Mais avant cette vérité, avant cette découverte, avant cette confession, il y a un accueil. Il y a un accueil de cette femme par Jésus, et c'est cet accueil que j'aimerais voir avec vous. J'aimerais regarder le texte à nouveau, non pas pour y trouver un mode d'emploi sur comment accueillir. La Bible n'est pas un manuel du bon accueil. On ne va pas y trouver pour voir s'il faut parler ou pas parler, combien de temps est-ce qu'il faut le faire, quels sont les sujets à aborder, quels sont les sujets à éviter, est-ce qu'il faut faire la bise ou est-ce qu'il vaut mieux serrer la main. Ça, ce n'est pas ce qu'aborde le texte. Et de toute façon, ça, c'est culturel. Ça fait partie à la culture dans laquelle nous nous trouvons. Ça demande de la sensibilité personnelle, de la sensibilité relationnelle. Non, j'aimerais regarder ce texte pour dégager des principes d'accueil selon Jésus. Jésus est venu dans notre monde. Il le dit, il le répète plusieurs fois. J'ai regardé rapidement, en particulier dans l'évangile de Jean, il répète « Je suis venu dans le monde ». Il sait pourquoi il est venu. Il est venu au nom du Père vers l'humanité pour la réconcilier avec le Père. Et nous qui sommes son corps, le corps du Christ, eh bien, nous devons nous inspirer des mêmes principes que lui pour accueillir en son nom. Et c'est ces principes que j'aimerais dégager avec vous ce matin. J'aimerais comme ça dégager trois principes, mais avant d'attaquer ces trois principes, il y a un préalable, une remarque préalable que j'aimerais faire. Jésus accueille, et pourtant, il n'accueille pas chez lui. Dans ce texte, Jésus joue à l'extérieur. Il n'accueille pas chez lui. À domicile. Par contre, il accueille auprès de lui. Il accueille dans son espace, dans son temps, dans ses centres d'intérêt, dans ses préoccupations. C'est là où il fait de la place pour cette femme samaritaine. C'est là qu'il l'accueille. Et c'est la remarque préalable que j'aimerais faire, que l'accueil véritable ne dépend pas du lieu. Nous n'avons pas besoin d'être chez nous pour accueillir. Et même pour aller plus loin, on peut être chez nous et ne pas vraiment accueillir. On peut mettre en place les formes de l'accueil, on peut dire « faites comme chez vous », mais pas, ne pas donner de considération à la personne que nous recevons, ne pas lui faire de la place dans nos préoccupations. Accueillir, c'est faire une place dans ses préoccupations. Et c'est pour un tel type d'accueil que j'aimerais à présent rechercher dans ce texte quelques principes. Le premier principe, c'est d'aller vers l'autre. le fait que Jésus aborde cette Samaritaine, il entre en contact avec elle, ce n'était pas gagné. Vous vous souvenez dans le texte de la surprise qu'elle a? Comment? Toi qui es juif, tu me parles? Le fait qu'il lui adresse la parole, c'était pour elle une surprise complète. Premièrement, il ne la connaissait pas. Il parle à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Deuxièmement, c'est une femme, lui un homme. Et culturellement, à l'époque, ça ne se fait pas trop. Mais Jésus bouscule les relations hommes-femmes en redonnant à la place une femme digne, à la femme une place digne. Il ne la connaît pas, elle est une femme, lui un homme. Troisièmement, c'est une Samaritaine et lui un juif. Et ça, Jean le souligne, hein, il y avait une parenthèse dans le récit parce que Jean, c'est celui des évangélistes qui écrit son évangile le plus tard. Quand il l'écrit, les chrétiens, ce n'est pas uniquement des juifs, et il y en a à qui il faut expliquer. Au cas où vous ne sauriez pas, les juifs et les samaritains, ils ne s'entendaient pas du tout. Les samaritains, elle le dit elle-même, hein, adoraient Dieu sur cette montagne alors que les juifs le faisaient au temple. Les juifs étaient fidèles à ce que Dieu demandait, les samaritains avaient bricolé pour que ce soit plus pratique. Et les juifs pensent que les samaritains adorent Dieu n'importe comment et qu'il faut être séparé d'eux, n'avoir aucune relation avec eux. C'est une raison de plus pour laquelle ils n'auraient jamais dû se parler, ces deux-là. Et il y a même une quatrième raison pour laquelle c'est surprenant que Jésus l'aborde et lui parle. Nous l'apprendrons plus tard dans le récit. C'est que cette femme mène une vie dissolue. Ça, nous le verrons plus tard, nous y reviendrons. Malgré ça, malgré toutes ces raisons pour lesquelles il n'aurait pas dû aller vers elle, eh bien, il va vers elle et il engage la conversation. Et même si je pense qu'en lisant le propos, on voit qu'elle le vanne, je pense quand même qu'elle y est sensible, parce qu'elle n'a pas l'habitude. Aller vers elle, c'est la première chose que Jésus fait, et il marque des points. Nous aussi, nous pouvons vivre cela. Accueillir ceux qui passent nos portes, ceux que nous croisons. Dans son livre, Christophe Short, qui était notre orateur au dernier week-end d'église, rapporte cette anecdote. Le dimanche de Pâques 2016, il a serré la main d'une personne qui est venue dans les locaux de son église pour la toute première fois. Et cette personne l'a regardé avec étonnement. Vous êtes la septième personne qui m'a dit bonjour ce matin. Pour elle, un tel accueil était inhabituel. Chris lui a laissé boire un café, puis il est revenu 10 minutes plus tard et lui a posé la question « Alors, vous en êtes à combien ?»« 18 !» elle a répondu, et cette fois-ci avec un grand sourire. Je suis allé à des réunions politiques, à des réunions culturelles, où on rentre et on ne vous dit pas bonjour. Personne ne m'a dit bonjour. Ceux qui se connaissent discutent et puis les autres attendent que ça commence. Il ne s'agit pas d'entretenir une longue conversation avec des inconnus. Certains sont doués pour cela, mais d'autres n'ont pas l'outillage social, l'outillage relationnel. Ce n'est pas facile pour eux. Mais dire bonjour, prendre conscience que l'autre est là, s'intéresser à ceux qui sont là, à ceux que nous avons invités, n'est-ce pas à la portée de tous? Je crois que l'Église peut étonner, peut interpeller, parce que nous recevons, nous accueillons des personnes qu'on ne connaît pas, des gens qui ne sont pas habillés comme nous, des gens qui ne sont pas de la même origine, des gens qui ne sont pas de la même religion. Et nous sommes ensemble, issus d'un même Père, à nous accueillir les uns les autres. Jésus sait pourquoi il est venu. Il le dit au chapitre 18 de l'évangile de Jean, « Je suis venu du Père et je suis venu dans le monde. » Il est venu à la rencontre de l'humanité. À nous de poursuivre ce mouvement. Deuxième principe, pour l'accueil, c'est avoir conscience de ce qu'on a en Jésus-Christ. Je l'ai dit tout à l'heure en parlant du texte, le dialogue entre Jésus et la femme samaritaine est un peu bizarre. Lui, il parle sur un plan spirituel et elle, elle est très terre à terre sur l'eau qu'elle doit puiser. Qui ne comprend pas l'autre ? Qui fait semblant de ne pas comprendre l'autre ? Est-ce que c'est Jésus qui fait semblant de croire qu'elle ne suit pas ? Ou est-ce que c'est elle qui fait semblant de ne pas comprendre ? Comme une façon de dire « Ouais, c'est bien beau ce que tu me racontes, mais il va falloir que je continue à puiser, moi. » En fait, on peut faire le lien avec ce qui précède, la façon dont elle s'exclame « Comment tu me parles à moi ?» Comme si elle disait « Vous, les Juifs, vous nous snobez, vous ne parlez jamais, et quand ça vous arrange, quand je peux t'apporter quelque chose, je peux t'apporter un peu d'eau, là, tu me parles. C'est un peu facile de se servir des autres. » Et c'est là que Jésus répond. « Si tu savais, je peux te donner tellement plus qu'un peu d'eau pour étancher ta soif. » Jésus lui dit qu'il a donner quelque chose de bien plus précieux que ce qu'elle imagine. De l'eau qui permet d'étancher toute soif et qui permet de ne plus y revenir. Quelque chose de tellement formidable que c'est elle qui devrait se tourner vers lui pour lui demander. Et nous alors ? Est-ce qu'il n'y a pas des fois, quand on va vers les autres, on a l'impression qu'ils nous voient venir avec nos gros sabots, qu'ils nous voient nous approcher, on va essayer de les convertir. On est des prosélytes. Est-ce qu'on ne peut pas répondre comme Jésus, si tu savais ? Si tu savais que le bénéfice de ce que tu peux avoir à suivre Jésus, il est tellement plus grand que celui que j'aurais si j'ajoute une personne sur une liste de membres. Si tu savais ce que tu peux avoir à te rapprocher de Jésus. Réfléchissez à cela. Le premier mouvement de notre projet d'église, c'est d'inviter. Et quand on invite, généralement, on invite avec une promesse. Regardez les invitations à nos derniers cultes de Noël. Alors, il y en a une qui sort très mal. Cette année, on propose « Et si un cadeau changeait votre vie ?» C'est gonflé. L'année d'avant, « Venez éclairer votre Noël. » Rien que ça. Pourtant, on y croit. C'est ce que dit la Bible. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Où Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Quand on invite avec une promesse. On n'a pas peur. Et ensuite, dans l'accueil, dans le mouvement suivant, est-ce qu'on poursuit ? Est-ce qu'on a la même assurance ?
crois qu'il faut poursuivre. Je crois qu'il faut ne pas avoir peur de dire que oui, le cadeau du don gratuit de Jésus-Christ, il a changé ma vie. Oui, Jésus éclaire mon Noël et ma vie. Ce n'est pas terre à terre. Ce n'est pas forcément ce que les personnes avec qui on comprend, avec qui on discute comprennent. Mais pourtant, c'est ce que nous vivons. Et n'ayons pas peur de le partager. Alors, ce n'est pas une invitation à être rentre-dedans, roulons compresseur et à sortir les versets, etc. Souvenons-nous de la façon dont Jésus conduit son entretien. Il discute, il écoute. Il écoute les remarques, les questions de la dame. Il fait des réponses courtes pour relancer. Mais sans nous départir de cette écoute, nous avons la place aussi de témoigner de ce que nous vivons ici. C'est quelque chose de formidable. Je me souviens, il y a plusieurs années, on avait organisé un parcours alpha. Ce n'est pas le dernier, hein, c'est un autre qu'on avait fait il y a plusieurs années. Et à la fin d'un repas, il y avait une personne comme ça qui était invitée, qu'on ne connaissait pas, qui demande à un organisateur, et sinon vous, pourquoi vous avez rejoint cette église? Des fois, juste dans la conversation, les gens nous posent ces questions-là. Qu'est-ce qu'on veut répondre? Est-ce qu'on veut esquiver? Ou est-ce qu'on veut dire, oui, ça a changé ma vie, et c'est avec joie que je viens ici recevoir de la part du Seigneur. Dans un des textes que Monique nous a lu ce matin, en Jean 10, Jésus nous dit pourquoi il est venu. Je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Et nous, savons-nous partager sans gêne ce que nous vivons lorsque ça intéresse? Troisième principe d'accueil, le titre de la diapo n'est pas bon. Troisième principe d'accueil, c'est accueillir des pécheurs. Et c'est ce point-là qui marque le plus la femme samaritaine. Le fait qu'elle ait été accueillie malgré son péché. Si vous lisez la suite du récit, quand elle retourne vers la ville pour aller chercher les habitants, pour leur dire ce qu'elle a vécu, elle leur dit, j'ai rencontré un homme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et c'est cette parole qui la marque le plus, puisque c'est ça qu'elle met en avant, et c'est cette parole qui fait venir ses voisins. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Parce que ce rabbi, juif, maître versé dans les choses de Dieu, il a pris le temps de parler avec elle alors qu'il savait. Alors qu'il savait que sa vie, c'était n'importe quoi. Ce qui la frappe, c'est pas le côté miraculeux de « je lui ai rien dit et il savait quand même ». Ce qui la frappe, c'est bien l'accueil malgré le fait qu'il sache. Et je pense que quand il lui a dit ça, elle a pensé rétrospectivement à toute la conversation qu'ils avaient eue. Au fait qu'il ait accepté, qu'elle soit un peu rentre-dedans avec son histoire d'eau, là, lui dire qu'il faisait le malin mais qu'il n'avait même pas de seau. Elle a repensé à tout ça. Elle a repensé aussi que on la regarde de travers. Elle n'a pas l'habitude d'être accueillie, même dans son village. Une femme qui va vers midi chercher de l'eau en plein soleil, c'est pas qu'elle cherche de la compagnie, hein.
C'est plutôt qu'elle cherche à éviter de croiser d'autres personnes. Mais malgré ça, malgré le fait qu'elle ait mauvaise réputation, malgré le fait que personne ne veuille être avec elle, Jésus a passé du temps avec elle. Et il y a là un réel défi. Je suis en train de lire un livre de Jonathan Hanley sur l'accueil. Et il écrit que nos contemporains s'attendent, en venant dans les églises, à rencontrer des personnes au comportement exemplaire, mais qu'ils craignent aussi de les trouver prompts à juger les défaillances des autres. Tout le monde a l'image que dans une église, il y a une exigence morale. Mais Jésus était celui qui a accueilli tout le monde. Celui qui a accueilli les pécheurs. Ils avaient une place auprès de Jésus. Saurons-nous accueillir les personnes comme Jésus l'a fait? Il n'a pas bradé ses exigences. Il a toujours dit ce qu'il pensait du péché, de ce qu'il allait faire. Mais il n'est pas venu pour juger et pour condamner ceux qui croisaient. Pourtant, s'il y en avait un qui pouvait le faire, c'était lui. Et c'est certainement pas nous. Serons-nous faire en sorte que les pécheurs se sentent à l'aise parmi nous? Serons-nous faire en sorte qu'ils se sentent aussi à l'aise parmi nous qu'ils l'étaient avec Jésus? Serons-nous nous souvenir? Nous sommes nous-mêmes, des pécheurs pardonnés. Jésus sait pourquoi il est venu. Je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Saurons-nous faire de même? Voilà les principes. Trois principes que j'aimerais retenir pour notre accueil, que j'aimerais retenir pour mon propre accueil. C'est bien d'inviter, mais derrière, il faut poursuivre. Poursuivre en accueillant les personnes qu'on invite. Et l'accueil, c'est plus que dire bonjour à la porte. L'accueil, c'est faire une place dans ses préoccupations. Trois principes. Trois principes que je retiens pour faire une place dans ses préoccupations et accueillir comme Jésus l'a fait. D'abord, aller vers les autres dans un geste simple mais vrai qui montre que nous prenons en compte ceux qui sont là. Ensuite, nous souvenir que nous avons quelque chose à offrir. Que ce que nous écrivons sur nos invitations, nous le vivons. Et que ceux que nous invitons peuvent le vivre également. Et puis troisièmement, que nous sommes là pour accueillir des pécheurs. Pécheurs comme nous, lorsque le Seigneur est venu nous chercher, accueillir comme lui, quand il est venu vers nous, malgré cela. Souvenons-nous que nous agissons au nom de notre Seigneur, lui qui est venu dans notre monde à notre rencontre, de la part du Père, pour donner la vie en abondance, non pour juger le monde, mais pour le sauver. Amen.